posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club MediaRH.com, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management, de la réussite et de la découverte. On est ravis de passer cette heure en votre compagnie. J'espère que tout va bien. Pour nous, c'est parfait. Vous savez que c'est aussi de la découverte. J'insiste souvent là-dessus. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Il sera question de vous aider. C'est notre priorité. À recruter votre futur employeur. C'est notre mission. Ça va être le cas, notamment grâce, comme chaque semaine, à l'invité, entreprise. Il s'agit de Véronique Gilode. Elle est la DRH de LCMI. LCMI qui est expert en conception de bâtiments industriels et en ingénierie informatique, dont l'édition également de logiciels pour la banque et les mutuelles. Voilà, 30 postes à pourvoir là tout de suite, dès à présent pour vous. C'est une opportunité, des postes d'ingénieur informatique et bâtiments industriels. On va y venir en détail. Alors, à côté de ces offres d'emploi, on va parler, bien sûr, de management et d'emploi avec David Castera, fondateur de Immersing Lab. Il se présente comme un artisan du numérique. Il a mis au point, ils ont mis au point un test de culture numérique d'un candidat. Comment connaître la culture du numérique d'un candidat, c'est une bonne question. Alors qu'aujourd'hui, on en recherche beaucoup et ce sont des profils les plus recherchés même. Il sera question cette fois d'autre chose et on aime apporter notre coup de pouce dans des combats. Là, il s'agit avec Agnès Ducressier, directrice de l'association Iris Messidor. C'est lié au handicap. Elle accompagne, ils accompagnent et insèrent des handicapés psychiques. C'est quoi un handicapé psychique? Quelle différence avec... On en parlera tout à l'heure avec elle, bien sûr. Et puis, comme chaque semaine, un invité témoin qui n'a peut-être pas forcément de lien direct avec l'emploi, mais nous l'adorons. C'est un grand écrivain, un grand personnage aussi. Et il est à la fois le président fondateur d'un festival de cinéma très connu, réputé, qui va fêter son 30e anniversaire. C'est celui de Cabourg, au mois de juin. Et il vient de faire paraître un livre, un tout petit livre, mais ô combien intéressant, sur un autre festival, un ruban de rêve. Je parlais du festival de Cannes. Bonjour Gonzague Saint-Bré.
Bonjour Alexandre Lichamp.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous qui êtes auteur de romans. Vous en êtes à combien de romans?
On va parler. 50 livres, dont 20 biographies.
Voilà, c'est une de votre grande compétence. On parle de compétence puisqu'on parle d'emploi dans cette émission. Vous, c'est le roman historique. On y reviendra. Mais là, à côté de cela, il y a des romans tout court. Et là, un tout petit livre qui paraît, comment dire, j'allais dire bizarre. Avec une jolie jeune femme en photo devant l'ancien palais des festivals de Cannes. C'est chez Incipit. C'est ça l'éditeur?
Incipit.
Incipit, il faut le dire comme ça.
Oui.
C'est un éditeur américain, c'est...
Non, pas du tout. C'est un vieux mot français.
Ben, j'apprends qui, encore quelque
veut,
chose avec
qui
vous.
Qui veut dire les premières phrases, les premières lignes. L'incipit, c'est les premières lignes d'un roman. Par exemple, Proust, longtemps je me suis couché de bonne heure, c'est un incipit.
Ah ben, j'ai appris quelque chose encore. Mais Gonzague Saint-Bry, mais l'Académie française, on se tait.
Bon. C'est un endroit formidable.
C'est un endroit formidable.
Et l'Académie française, c'est une institution de plus en plus utile au pays, oui. Parce que c'est un des derniers remparts par la culture contre la barbarie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette collection de livres s'appelle, oui, « La première fois ». Moi, on m'a demandé de raconter la première fois le Festival de Cannes, mais après, il y a François Bégodeau qui raconte la première fois une femme à l'Académie. Bien sûr, c'est Marguerite Yourcenar. Puis, la première fois, la traversée de l'Atlantique, etc.
Alors là, votre livre, c'est la première fois au Festival de Cannes. Et la première fois, vous la racontez, mais surtout, je le répète, et on va venir dans le détail. J'ai appris, dans ce livre qui fait combien de pages, 180 pages à peu près, oui, centaines de pages, des choses que je ne connaissais pas. Pourtant, je m'intéresse au festival, comme tout le monde, quoi. Je crois connaître. Et vous aviez raison. Vous me disiez, on croit connaître, avant d'entrer dans le studio. Et en fait, on va y arriver, justement. On va donner des exemples. Alors, vous racontez votre découverte du festival de Cannes, vous-même. Et moi, ce qui m'a le plus passionné dans ce petit livre, parce que le festival de Cannes, c'est dans un mois, un peu plus d'un mois. Hein,
absolument.
C'est 1939.
Mais oui, parce que
c'est une période incroyable. Et encore une fois, je vais vous laisser... Il faut lire votre livre pour ceux qui sont passionnés par le cinéma et la culture. Mais je trouve que vous avez bien résumé des petites pépites comme ça, incroyables, sur comment ce festival qui devait être, qui est au départ en septembre, si je me souviens bien dans votre livre, vous racontez bien, de cinéma, il y a des bagarres autour, ensuite il y a la Mostra de Venise, il y a des ministres qui s'en mêlent. Enfin, c'est bien
C'est-à-dire qu'en fait, le festival de Cannes, on croit que c'est la foire aux vanités, les people, le tapis rouge. Non, le festival de Cannes, politiquement, c'est le premier acte de résistance française contre le fascisme, avant même la déclaration de guerre. En 1938, il y a un seul festival qui domine le monde.
C'est la Mostra de Venise.
La Mostra de Venise. Et c'est le comte Volpi qui l'a créé. Et dans cette Mostra de Venise, dans le jury, il y a des gens de tous les pays. Et le français qui représente la France, c'est un historien jeune, Philippe Erlanger, que j'ai rencontré et qui m'a tout raconté, qui a 35 ans. Il arrive à la Mostra de Venise, et là, tout le monde est là, c'est merveilleux, et tout d'un coup, on s'aperçoit que le ministre Goebbels de l'Information a téléphoné sur ordre de Mussolini et d'Hitler pour dire que le film qui doit être primé, c'est Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, qui est un hommage au culte du corps et à la race aryenne.
Le fameux film.
Le festival qui existe depuis quelques années seulement est bousculé, il est contesté, les Anglais disent on s'en va, les Américains disent on reviendra plus, et Philippe Erlanger rentre dans la nuit par le Venise-Simplon Orient Express à Paris, et dès le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son ami, mais ce qui est surtout le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ça veut dire ministre de la Culture, qui s'appelle Jean Zay. Jean Zay, vous le connaissez tous aujourd'hui parce qu'il a été porté au Panthéon il y a quelques mois par le président de la République. C'est un grand résistant.
Grand ministre. Il a été un grand ministre.
Un grand ministre. Et c'est un homme de 35 ans qui a fini tué par la milice, fusillé dans le dos d'une façon
ignoble.
En 44,
je crois, juste avant la fin de la guerre.
Et il était monté dans le bateau, le Massilia, avec Mendès France. En tout cas, il est le ministre de la Culture, entre guillemets. Et là, Erlanger lui dit, il faut qu'on fasse quelque chose.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et vous le racontez très bien, comme toujours, vous avez cette si belle plume. Moi, ce que j'aime, je reviens là-dessus, c'est sur cette période, il y a 39 qui arrive, Jean Zay. Vous parlez du fameux premier festival qui a lieu, donc, et là, il y a un orage.
Oui, alors, en fait...
Juste un mot là-dessus.
Et très rapidement... Erlanger dit, il faut qu'on crée un festival. Alors, où est-ce qu'on va le faire? En France. Ouais. On va le faire à Alger, on va le faire à Vichy,
Biarritz.
On va le faire à Biarritz.
On a pensé
non,
à Biarritz.
Finalement, c'est Cannes. Et le premier festival de Cannes va avoir lieu en 1939. Alors, c'est extraordinaire.
En septembre 39,
il y a des actrices américaines qui arrivent par hydravion, qui se posent dans la baie des Anges. Il y a le duc de Windsor qui arrive avec sa femme, avec 100 valises. Et il y a tous les pays qui sont représentés, ouais. Et le soir, il y a un grand dîner au casino municipal de la ville.
Exact.
Car le palais n'existe pas, le tapis rouge n'existe pas, la palme d'or, c'est pour dans plusieurs années. Et ce soir-là, c'est fantastique, mais tout d'un coup, un orage inouï qui se transforme en un ouragan. Tout le festival, le casino est dévasté. Ouais. Et là, Philippe Erlanger dit, c'est un mauvais présage. Effectivement, le lendemain, on apprend que la Wehrmacht a envahi la Pologne. Hitler s'est lancé. Le surlendemain, la France...
déclare la guerre.
L'Angleterre d'abord déclare la guerre à l'Allemagne, puis la France.
Et l'Italie ensuite.
Festival est repoussé. Et il ne recommencera que 7 ans plus tard, en 1946.
C'est ça qui est incroyable. Et j'ai appris, c'est ainsi que donc vous venez de le dire, que ce festival aurait dû se passer ailleurs, quoi, qu'à Cannes, Biarritz, d'autres villes, même Vichy, on a même envisagé.
Oui, on a pensé à Vichy.
Heureusement qu'on n'a pas pensé à Vichy, c'était juste avant la guerre.
Avant la guerre.
Septembre 39, des personnalités qui viennent de partout, on va y revenir. Et donc c'est en 40, vous dites, en 46
En 46 que reprend le festival de
Cannes. Il n'y a plus Jean Zay qui est mort, bien sûr. Et là, ça coûte beaucoup d'argent.
Et la ville de Cannes a pris en charge financièrement, c'est pourquoi elle a obtenu ce festival. Et alors, comment... Alors, en plus de ça, on est dans l'après-guerre. C'est la joie, tout le monde s'amuse. Il y a des pique-niques dans l'île de Lérins, il y a l'élection d'une Miss Festival. Sur le sable, il y a Jean Cocteau en costume prince de Galles qui est avec Michel Morgan. Et puis, il y a, elle est en bikini, car le bikini vient d'être inventé par un ingénieur. C'est un ingénieur qui a inventé le maillot deux pièces pour faire plaisir à sa maman, qui a une boutique qui s'appelle Les Folies Bergères à Paris.
Alors, on ne le sait pas, mais ce festival en 46, et vous le racontez, aurait pu, à la demande des Américains, se dérouler à Bruxelles ou à Stockholm, ce fameux festival de Cannes, qu'on appelle aujourd'hui de Cannes. Il a donc fallu les convaincre, ce qui a permis une signature à Washington le 26 mai 46, racontez-vous, des accords conclus par Léon Blum.
Absolument.
Président du Conseil français et par le secrétaire d'Américain, Monsieur Burns, pour abroger les mesures douanières franco-américaines qui accordaient un prêt de 650 millions de dollars à la France, qui permit en contrepartie l'afflux non contingenté de films d'outre-Atlantique.
Voilà, alors
c'est
là,
comme ça que naît le Festival de Cannes. Il y a eu un accord.
Et là, il y a les deux grandes
puissances. Pour que les films américains viennent à Cannes.
Absolument.
Juste après-guerre.
Et il y a les deux grandes puissances du monde qui se regardent. C'est l'Union soviétique.
Qui créent leur propre festival.
Qui vont créer le festival plus tard. À eux. Et puis, il y a évidemment les États-Unis d'Amérique. Et vous avez déjà Mae West qui est là, vous avez tous les grands acteurs américains. Et surtout, ils se défient les uns les autres. Et surtout, la mauvaise organisation des projectionnistes du Festival de Cannes. Il n'y a qu'un projectionniste. Alors, il a engagé 3 jardiniers de Cannes pour l'assister. Mais les types avec les bobines, ils ne savent pas lire en russe ou en américain. Et en fait, les projections se font avec des... On se trompe de bobine, on met la bobine du début à la fin, etc. Et ça commence, et les Russes croient que c'est un complot contre eux.
Alors, c'est une très belle histoire, on en reparlera tout à l'heure. Un ruban de rêve, ce livre, je le répète, achetez-le si vous aimez le cinéma. Il faut l'avoir dans votre bibliothèque. Il compte parce qu'il donne des précisions et il permet d'en savoir plus. On va pas parler de... Vous restez avec nous, bien sûr. Je m'adresse au journaliste qui est Gmozac Samri, d'une certaine manière, le romancier, mais aussi journaliste, témoin de son époque. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Mon cher Gmozac, vous connaissez le principe de l'émission. Je voudrais vous présenter, on va y venir dans quelques instants. Vous cherchez pas un poste d'ingénieur, vous? Non? Vous n'avez pas envie
Non, l'ingénieur, c'est celui qui a créé le bikini, c'est pas moi.
Voilà, je voudrais présenter Véronique Gilode. Bonjour, Véronique.
Bonjour, Alexandre.
Véronique est donc DRH, je l'ai dit dans le sommaire, d'El Simay. C'est un joli nom, El Simay.
Oui.
Ça veut dire quoi, au fait, El Simay?
Le sommet.
Dans quelle langue?
Je crois que c'est du catalan.
C'est un piège, hein, peut-être.
C'est un piège, mais j'ai un peu peur, parce que je suis en face de quelqu'un qui connaît bien la langue française.
Alors, El Simay, le sommet, ça se retrouve, il y a des consonances. On va parler d'emploi et de création d'emploi avec vous.
Exact.
El Simay, en deux mots, là, juste avant une petite pause, donnez-nous quelques chiffres clés de l'entreprise.
40 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 8 sociétés, on est implanté sur toute la France, et on emploie 250 salariés. Mais ce n'est pas suffisant.
Mais il en faut encore.
Il en faut encore.
Donc ça veut dire que les marchés sont ouverts, qu'il y a des besoins.
Oui, il y a vraiment beaucoup de besoins. Ouais.
Je disais dans le sommaire que vous étiez expert en conception de bâtiments industriels. Ça veut dire quoi? Donnez-moi un exemple.
Eh bien...
Connu peut-être, récemment.
Connu, récent. On a fait une usine de cosmétiques pour Guerlain.
Oui.
Donc on conçoit le bâtiment, on le réfléchit. Il y a des architectes qui le dessinent.
Des experts qui dessinent
experts
avec le client.
Des experts techniques qui dessinent avec le client. Et ensuite, on supervise la réalisation.
Alors vous êtes également expert en ingénierie informatique, ça veut dire quoi?
On répond aux besoins des clients sur leur système d'information. Et en parallèle aussi, on fait l'édition de logiciels.
Je peux vous donner encore vous demander un exemple?
Alors un exemple
qui vous vient à l'esprit.
Que j'ai le droit de donner, on travaille par exemple pour beaucoup de banques.
D'accord.
On a des collaborateurs qui travaillent quasiment à temps plein chez beaucoup de banques d'affaires, comme Palatine, ABN AMRO.
Oui. Alors on est ravis d'avoir la DRH d'El Simay avec nos autres invités qui interviendront tout à l'heure. On va faire un focus sur votre entreprise, on veut savoir qui vous êtes, parce que à l'écoute de BFM, c'est notre rôle. Oui. Il y a peut-être, j'en suis sûr même, des hommes, des femmes qui se disent, mais pourquoi pas moi, chez El Simay, dans un instant.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Avec Gmozac Samri pour un ruban de rêve, notre invité témoin, Véronique Gilode, DRH de El Simay, en deuxième partie, David Castera et Agnès Ducressier. Mais là, on va donc remplir notre mission, à nous. mon cher Gonzague, vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, exercer votre curiosité. LCMI, on en est là, expert en conception de bâtiments industriels, on est en ingénierie informatique. Je vous donne le chiffre pour ceux qui nous écoutent, 30 postes à pourvoir immédiatement, dès à présent. Hein.
Ah oui.
Ça, c'est formidable.
Dans les plus brefs délais.
Dans les plus brefs, on ne peut pas dire mieux, d'ingénieurs informatiques et de bâtiments industriels. Bon, c'est vrai que les ingénieurs, aujourd'hui, c'est vraiment la population la plus recherchée. On se bat, les DRH ont des filets à papillons, aujourd'hui, pour essayer de les attraper.
C'est une population extrêmement volatile, car très, très demandée. Donc,
ce sont des stars, hein. Pour faire le lien avec le festival de Cannes de Gonzague-Saint-Brie.
Alors, du côté de l'ingénierie du bâtiment, comme on réalise des choses plutôt grandioses sur du long terme, je veux dire 2 ans, 18 mois à 2 ans, on préserve nos équipes. Après, du côté de l'informatique, c'est un peu plus volatile parce que c'est de leur culture, c'est des gens aussi très curieux et qui ont besoin d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs.
Alors, 2 pôles, je le répète, d'intervention, pôle historique, pôle informatique, on vient d'en parler, vous éditez des logiciels pour répondre aux besoins du marché, et vous intervenez sur des projets. Alors là, Gonzac, êtes-vous prêt, vous qui êtes un littéraire, mais ils vont se reconnaître automatiquement, ceux qui nous écoutent, je parle des ingénieurs. Vous voulez des exemples de profils. Ils vont intervenir sur des projets .NET.
C'est des développements Microsoft.
Très bien. Sur des projets SharePoint.
SharePoint.
Java 12EE. Je lis, hein. J2E, pardon. Je suis bête. Non, je connais J2E. AS400. Oui. L'ERP Movex. Oui. M3. Etc. etc.
Alors là, il faut nous dire ce que c'est.
Oui, c'est un jargon, quoi.
C'est un véritable jargon. Par contre, c'est vrai que les gens qui peuvent écouter comprendront. On est sur plusieurs,
Des compétences techniques.
Compétences techniques. Il y en a qui sont purement Microsoft, d'autres qui sont plutôt sur du Java, logiciel libre, IBM. Oui. Et historiquement, parce que la société a bientôt 25 ans, on était sur de la S400. Et on a encore beaucoup d'entreprises, notamment dans le monde de la banque, de la mutuelle, qui utilisent cet outil AS400.
J'aime bien AS400.
On développe en RPG.
Il n'y a pas AS410, non ? Ça arrête à 400 et on passe à autre chose.
Après, on a basculé en e-series.
Ah oui, bien sûr.
Compatible, nouvelle techno.
Ouais. Oui, c'est normal, le e-series. Que tout le monde connaît.
Non, mais c'est purement technique.
Je veux dire qu'ils vont se reconnaître. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Parlons de ces ingénieurs que vous recherchez. Ils sont diplômés d'une école d'ingénieurs. Prenons un profil idéal pour vous, puisqu'on a la chance d'avoir la DRH d'Alcimay. Allons-y.
Alors, pas forcément diplômés d'une école d'ingénieurs. Ah. Ça recouvre des compétences qui vont du bac plus 2 en informatique jusqu'au bac plus 5, effectivement. Donc, on a majoritairement des ingénieurs.
Une palette large.
Mais la place est faite aussi aux gens qui ont une formation un peu moins importante parce que, à terme, ils ont une étendue de savoir-faire qui est quasiment identique. Voilà.
Si j'ai bien compris, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer, en fait, quand on entre chez Alcimay, on rentre dans une école en même temps.
Oui, on recrute.
On est formé.
On fait former les gens.
Qu'on soit bac plus 5, il y a une formation, il y a un passage.
Alors, il y a des formations, on est obligé, parce que les technologies évoluent en permanence, donc on est obligé de les accompagner. Mmh. Je parle que de l'informatique, mais il y a l'ingénierie du bâtiment, c'est le même principe. Ensuite, on sélectionne des candidats qui sont de bac plus 2 ou bac plus 5, qui ne sont pas forcément des informaticiens. Mais qui ont une culture scientifique.
D'accord.
Et on les forme à nos métiers.
Mais ça peut être des universitaires, donc.
Complètement. Voilà. Là, dernièrement, nous avons recruté des universitaires qui n'avaient pas forcément appris l'informatique. On les a formés et on a de très, très bons résultats.
Alors, vous avez un slogan qui va faire plaisir à Gonzague Saint-Brie, notre invité témoin. C'est presque il va nous l'interpréter, lui, à sa manière. Je le lis. La performance ne donne rien au hasard.
C'est exact. Oui. Mais c'est vrai.
Ça veut dire quoi pour vous?
Ça veut dire que pour être performant, il faut connaître son métier et savoir à qui on s'adresse.
Je me tourne vers notre académicien à nous, qui est Gonzague Saint-Brie.
Non. Alors,
la performance ne donne rien au hasard.
Parfait. Ça ressemble à la phrase de Proust. Là où je cherchais les lois essentielles, vous me disiez fouilleur de détails.
C'est Proust qui a dit ça.
Oui, il a dit ça.
C'est formidable. Mais la performance ne donne rien au hasard. Vous qui avez écrit, pardon, je fais une petite parenthèse avec Gonzague Saint-Brie, vous qui avez écrit de grands romans sur des grands personnages historiques.
Par exemple, ça ressemble à la phrase futuriste de Léonard de Vinci qui dit « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Donc, dans la performance, il ne faut pas se tromper.
Voilà.
Vous êtes d'accord ?
Oui, je suis complètement d'accord.
Vous allez reprendre la phrase de... Vous allez changer votre...
Non, on va garder notre signature.
La stratégie du groupe repose sur une spécialisation de niche. Ça veut dire quoi ?
Oui, quand on est sur l'ingénierie informatique, effectivement, on recherche...
À acquérir des compétences.
Il faut se placer là où il n'y a pas trop de monde. Donc, voilà.
Alors... Prenons le cas de figure dans ce studio, Gonzague Saint-Bry ou moi-même, nous sommes des ingénieurs, on correspond au profil. On souhaite rejoindre LCMI. Alors on frappe à votre porte, vous nous dites que notre parcours vous a plu. Gonzague Saint-Bry qui est l'ingénieur de la langue française, bon, je suis l'ingénieur de la radio, bon. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir ? Pourquoi est-ce qu'on va venir chez LCMI plutôt que chez des concurrents, et ils sont nombreux, qui sont à la recherche de techniciens et d'ingénieurs dans les systèmes d'informatique.
Très honnêtement, ce que vont trouver nos ingénieurs, ce sont des projets ambitieux. Quand on s'attaque à des projets tels que celui que j'ai cité tout à l'heure, Guerlain, pour l'ingénierie du bâtiment, ou quand construire le bâtiment d'un industriel, quand même, l'accompagner sur son projet, le rassurer sur nos savoir-faire, c'est quand même très,
comme
très
on dit,
concrètement,
c'est du lourd.
Voilà. Nos candidats, quand on leur parle de ce genre de projet, ça les émeut. Ils se disent qu'ils vont pouvoir participer à une belle réalisation. Du côté de l'informatique, c'est pareil. Quand on leur dit on crée des logiciels pour nos clients et qu'ils savent qu'ils vont contribuer à la réussite du client grâce à leur savoir-faire, leurs compétences, c'est motivant également.
Alors ça, c'est le premier point. Je reviens à ma question. Comment faites-vous pour les attirer, ces ingénieurs ? Alors, vous êtes dans notre émission, c'est parfait. Pour en parler, on est ravis.
Bah, ce qu'on fait aussi, c'est que, au-delà du projet, on essaie de leur proposer un parcours. Et on les accompagne sur leur parcours professionnel. On les accompagne en formation. On essaie aussi de leur proposer des activités extra-professionnelles pour que ce ne soit pas juste une société où on ne fait que travailler.
C'est pas du foot, c'est quoi ?
Non, par exemple, hier, on a fait une journée bien-être, santé, équilibre au sein de notre groupe. Ouais, et les salariés ont participé à cette animation et ça s'est passé dans la bonne humeur.
Gonzague Saint-Bry, vous qui êtes un grand expert du Moyen-Âge, de ces grandes périodes de l'histoire de France, est-ce qu'il y a un lien entre notre histoire, l'histoire de ce pays, l'histoire des grands de ce pays, qui ont fait ce pays, la France, avec justement cette notion de bien-être, que l'on retrouve encore aujourd'hui au XXIe siècle ? Ce lien entre le travail et le bien-être, c'est quelque chose de nouveau ?
Ça a toujours existé.
Ou pas ?
Ça a existé d'une façon magnifique sous la Renaissance, et nous sommes dans une période de crise, et les renaissances ne sont jamais nées dans des périodes fastes ou faciles, mais toujours dans des périodes de crise. Et donc, c'est pourquoi nous sommes peut-être à l'orée d'une nouvelle renaissance. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être dans votre émission, Alexandre Lichamp.
Merci.
L'émission des DRH, parce que l'aspect humain dans les entreprises est devenu absolument essentiel, et surtout ces derniers mois. C'est très important, la mobilité, le choix...
Le capital humain.
Le choix des vocations, des compétences dans la France d'aujourd'hui et dans les grandes sociétés comme celles qui sont représentées ici.
Véronique Gillot, de DRH d'Alcimaï, vous buvez du petit lait, ce que dit Gonzague Saint-Bry. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'aujourd'hui, on entre dans une nouvelle étape sociétale ?
On entre dans une nouvelle
étape.
Les
demandes des candidats ont changé.
Alors oui, il y a une véritable attente de prise en considération de l'être humain et de ses propres problématiques. Aujourd'hui, l'entreprise est obligée, en tous les cas les nôtres, d'essayer de correspondre à l'attente du candidat. C'est un petit peu terminé l'histoire de dire « l'entreprise elle est comme ça, t'es pas content ». Tu vas voir la porte en face et tu verras bien.
Et surtout l'évolution intérieure des carrières dans des grandes sociétés comme celle-là où les gens... désir évoluer, désir l'attention.
Est-ce qu'il y a un désir d'évoluer ?
Ah oui, il y a un désir d'évoluer.
C'est les ingénieurs aussi ?
Les ingénieurs, bien sûr, et d'une manière... alors peut-être parce que je vieillis, mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus dans la volonté d'évoluer très vite, de plus en plus rapidement, d'avoir des postes à responsabilité de plus en plus rapidement. Bon, c'est peut-être aussi l'ère actuelle, tout se fait de plus en plus vite.
Est-ce que votre groupe LCMI le permet aux candidats ?
Oui. On permet l'évolution de carrière au sein de notre groupe, oui. Tout à fait.
Est-ce qu'on peut, pardon d'aller jusque-là, parce que dans cette émission, on a parfois du mal à dire ce mot, est-ce que l'on peut envisager de faire carrière dans une entreprise comme la vôtre? Parce que c'est un mot qui est beaucoup banni.
Alors, on a plusieurs exemples au sein de notre groupe, et pas quelques-uns, plusieurs exemples qui font carrière, qui ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans.
Ça ne vous fait pas peur, vous, DRH, qu'un candidat fasse carrière?
Non, ça ne fait pas peur. Il y a, on a des hommes et des femmes clés qui connaissent parfaitement bien nos métiers.
Alors, on répète le chiffre, parce que les infos vont arriver dans quelques instants. On va se retrouver dans la deuxième demi-heure avec d'autres invités également. Le nombre de postes à pourvoir en 2016, ce qu'il vous reste à pourvoir, j'ai envie de dire, c'est 30 d'ingénieurs informatiques
et d'ingénieurs dans la conception de bâtiments industriels.
On se retrouve dans un instant avec les autres invités aussi.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Avec nos invités, l'invité témoin Gonzague Saint-Bry a un ruban de rêve. C'est un joli ruban, c'est celui du Festival de Cannes, Gonzague.
Oui, et c'est une phrase en fait d'Orson Welles. Il dit « Le cinéma n'a pas de limite, c'est un ruban de rêve ». Il y a des belles phrases sur le Festival de Cannes. Jean Cocteau a dit « Le Festival de Cannes est une comète posée pour quelques jours sur la croisette ». Et Claude Lelouch a dit « Le festival, c'est d'abord un escalier ». Facile à monter, difficile à descendre, et Cocteau encore, extraordinaire, le cinéma et l'écriture moderne dont l'encre est la lumière.
Alors c'est un lieu magique, le Festival de Cannes, bien sûr. Je répète, c'est dans un mois, tout le monde va en parler, toutes les chaînes de télévision, les chaînes de radio, BFM, bien sûr, BFM Business, BFM TV, avec Candice Maout, notre grande journaliste de cinéma du groupe. Et pourquoi c'est si magique, un festival de cinéma, Gonzague Saint-Bry?
Eh bien, en fait, comme l'a dit Cocteau, c'est une espèce de spasme de gloire. C'est un moment où tout le monde est en état de fête. Et aussi, c'est le festival des images. Au fond, finalement, c'est le film de la fiction, de la réalité qui rentre dans l'histoire de France.
Vous êtes le président fondateur du 30e, qui va fêter cette année son 30e anniversaire, du Festival du film de Cabourg, c'est bien ça? Le film romantique?
C'est le Festival du film romantique de Cabourg que j'ai créé il y a 30 ans.
Ce n'est pas un hasard si c'est vous, Gonzague Saint-Bry, qui l'avez créé, bien sûr.
Et le Festival de Cannes est déclaré comme dans sa 69e année, alors qu'en vérité, il est dans sa 70e année. Il a été, donc il est reparti après la guerre en 1946, on l'a dit. Il n'a pas eu lieu en 48 parce qu'il n'y avait pas assez de finances. Et donc, il a perduré. Et c'est formidable parce que c'est aussi la réunion de tous les journalistes. Je sais qu'à titre amical, vous avez créé un club pour les journalistes de cinéma et qu'on va pouvoir...
Ça, c'est pour le fun.
Pour le fun, vous retrouvez Alexandre Lichamp au club Média Ciné.
On se croisera certainement une journée. Voilà. Alors, on va aborder d'autres sujets RH avec vous, Gonzague, comme invité témoin. Et on reviendra sur votre liste tout à l'heure. Avec également Véronique Gilod. Bonjour.
Bonjour.
Cette première partie, vous qui nous avez parlé. Et je répète qu'avec le club Média RH, on est là pour mettre en avant les entreprises qui recrutent. C'est le cas de LCMI, dont vous êtes la DRH. 30 postes d'ingénieurs informatiques et bâtiments industriels. Alors, je vais vous présenter les deux autres invités qui sont dans le studio. On va, honneur aux dames, d'abord, on va commencer par vous, Agnès Ducressier. Bonjour.
Bonjour.
Ben, je suis ravi de vous recevoir, de vous rencontrer et donner un coup de projecteur à votre association, sachant que David Castera est aussi là. Bonjour, David Castera.
Bonjour, Alexandre.
Vous êtes fondateur de Immersing Lab, artisan du numérique. Ça a un rapport avec Véronique Gilod pour LCMI. Ça l'interpelle, vous qui avez mis au point un test de culture numérique d'un candidat. On va commencer par vous, madame. Donc, vous êtes directrice de l'association liée au handicap. Elle s'appelle Iris Messidor. Et vous accompagnez et vous occupez d'accompagnement et d'insertion de personnes handicapées psychiques. Alors, tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, Véronique Gilod vous posait la bonne question, c'est quelle est la différence qui peut exister? Ça veut dire quoi, handicapé psychique? C'est quoi? Ça regroupe quoi?
Alors, les problématiques liées au handicap psychique proviennent de maladies, de troubles psychiatriques. Donc, les dépressions dont vous faisiez état tout à l'heure, notamment, mais ça peut être tout trouble psychiatrique. Donc, le grand avantage, c'est qu'elle conserve une bonne efficience professionnelle.
qu'elles soient capables.
Elles sont capables de travailler.
Alors ça représente comme... Est-ce que vous avez des chiffres en France, par exemple? Est-ce
que ça on, dit que le handicap psychique touche 1% de la population.
Ah oui?
Oui, c'est énorme, oui.
Bah oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait, hommes
on,
et femmes.
On parle entre 1 et 3%. Moi, je prends toujours la fourchette basse.
Et des hommes, des femmes, entre quel âge et quel âge? Entre quel âge et quel âge? Il n'y a pas de limite.
Ça commence généralement à l'adolescence, enfin, grand adolescent, jeune adulte. Et bien évidemment, c'est une maladie qui peut se stabiliser, mais dont la guérison, on vit avec ce qu'on est, quoi.
Voilà. Mmh, bien sûr. Et bah, d'abord, coup de chapeau à une association qui se livre et qui aide ces personnes-là. Chaque année, vous aidez combien? On peut encore donner des chiffres, peut-être?
Bien
sûr. Ça vous ennuie? Non,
pas du tout.
C'est pour vous situer.
Oui. Donc, l'association elle-même encadre à peu près une 75 à 80 personnes en situation de handicap. Mmh. Mais on est dans un collectif d'emploi accompagné et on a placé en emploi l'année dernière 120 contrats. C'est-à-dire que 120 personnes ont bénéficié d'un contrat de droit commun dans le milieu ordinaire de travail et 120 contrats donc pour des personnes en situation de handicap ou de troubles psychiques.
Alors, on m'a donné les chiffres de Missidor de 2015. 716 personnes accompagnées au total, c'est bien ça?
C'est possible, oui. Je ne connais pas
par cœur
leurs chiffres. Oui.
233 encadrants, 17 sites en France, de votre association, 100 unités de production, 28 millions de budget, parcours de transition. Ce qui m'a intéressé, c'est pas une innovation, mais l'outil dont vous vous servez, qui est un service de job coaching, emploi qui accompagne, accompagné de Messina. Ça veut dire quoi?
Alors, job coaching, c'est une pratique qui s'est développée dans les pays plutôt anglo-saxons et qui maintenant arrive en Europe pour accompagner les personnes qui souffrent donc de troubles psychiques vers l'emploi, vers l'emploi en milieu ordinaire. Donc, c'est des personnes qui le souhaitent, hein, qui ont envie de travailler et qui ont pour objectif de travailler dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire pas dans les établissements spécialisés.
D'accord.
Et c'est une méthode un peu particulière parce qu'elle renverse en fait le lieu et le temps de l'accompagnement. En majorité, les accompagnements traditionnels se situent en amont et dans des espaces institutionnels, alors que le job coach se situe après l'insertion et plutôt dans l'entreprise.
Et ça consiste à quoi? Job coaching.
L'idée, c'est d'assurer un suivi de la personne tout au long de son parcours.
D'accord.
Tout au long de son parcours, y compris en entreprise, en articulation et en proximité avec tous les besoins dont la personne a besoin.
Quelle est aujourd'hui la place que prennent les entreprises, grandes ou petites, dans l'accompagnement du handicap en France? Parce que c'est un vrai débat.
Bien sûr.
On sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se détachent, entre guillemets, du problème en versant, parce qu'il y a une loi, la loi qui oblige, c'est ça, hein,
d'embaucher des handicapés. Oui, l'obligation d'emploi pour des personnes handicapées.
Et si elles ne le font pas, elles sont obligées de payer une taxe. Oui. Et cette taxe, parfois, souvent, certaines préfèrent la payer en se disant, comme ça, je vais pas
embaucher. C'est un peu le ressort. C'est forcément un peu le ressort qui va faire qu'ils vont venir vers des services comme les nôtres pour, effectivement, trouver des compétences à la fois parce qu'elles ont besoin de recrutement, mais aussi parce qu'elles ont besoin de remplir leur obligation d'emploi de personnes handicapées. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a aussi la responsabilité sociale de l'entreprise qui participe de ce recrutement.
Je me tourne vers vous, Gonzac-Saint-Bri. Je me tourne vers l'historien. Allez-y.
Que votre association donne des garanties et fait une formation préalable?
Et justement, je dirais que justement, c'est l'outil avec lequel nous travaillons renverse cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas la personne en amont de l'emploi, c'est en aval, c'est qu'une fois qu'elle est en emploi, une fois qu'elle est en suivi, qu'on assure tout le suivi en articulation avec ses besoins, donc avec les équipes soignantes, puisque s'il y a du handicap psychique, il y a nécessairement une équipe soignante, mais ça peut être aussi des intervenants sociaux, et bien évidemment le manager de l'entreprise, qui lui a besoin d'avoir un partenaire sur lequel s'appuyer, pour qui connaît et qui à la fois connaît et a le temps de s'occuper de cette partie-là de la personne.
Est-ce que vous avez vu récemment le cas de ce jeune, je crois qu'il est belge d'ailleurs, atteint d'autisme? Est-ce que l'autisme fait partie des maladies?
Ça se discute, vous savez, c'est pas, je veux dire, il y a pas de, c'est pas des cloisons étanches, ouais. Hein, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des personnes qui le classent dans le handicap mental, d'autres qui le classent dans le handicap psychique. C'est pas si étanche.
Quel est le message, en tout cas, de votre côté, Agnès Ducressier, vous souhaitez passer aux auditeurs de BFM Business ou aux entreprises en général ou aux particuliers?
Est-ce qu'il y a... Moi, je pense que les entreprises sont bien sûr... Tout le monde est intéressé par l'emploi des personnes handicapées, bien sûr, les personnes handicapées elles-mêmes, bien sûr, leur environnement familial, mais aussi l'entreprise, puisque l'entreprise a besoin de compétences. Hein, Madame le dit, elle a besoin de compétences. Et,
Véronique Gillot l'affirmait, exact.
Oui, absolument. Et on le sait, je veux dire, les personnes qui sont en situation de handicap ont des compétences, sont généralement beaucoup plus motivées et beaucoup plus constantes dans leur effort. Donc c'est à la fois une garantie d'avoir un bon recrutement, surtout quand il y a l'accompagnement professionnel de professionnels derrière.
Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher, Véronique Gillot, vous êtes DRH d'Alcimay, notre invitée entreprise, de me tourner vers vous. Quand vous entendez effectivement tout ce genre de choses, vous y êtes sensible automatiquement.
Évidemment.
Et le handicap, il est toujours possible d'embaucher?
En fait, on recrute. Et le hasard fait que parfois on a des candidats qui sont handicapés, parfois qui ne le sont pas.
Bien sûr, oui. On recrute. La porte est grande ouverte pour
tout
le monde.
Avant tout, on recrute une compétence. On ne recrute pas une étiquette. On recrute une compétence. Donc, si dans les compétences que nous recherchons, il y a un collaborateur qui est handicapé, touché par le handicap, quel que soit son handicap.
Vous ne jetez pas le CV à la poubelle.
Voilà, non.
Vous le rencontrez et s'il correspond.
On le rencontre et s'il correspond, on l'embauche, tout simplement.
Oui, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est quand même au départ la compétence. Dans des métiers
au
comme
ça. Au départ, c'est la compétence.
De l'informatique, ceux du digital, il faut quand même avoir un minimum.
Il y a aussi le savoir-être, parce que on a quand même. Nos collaborateurs sont en contact avec le client. Mais ça concerne tout le monde, qu'on soit touché par
le handicap.
Vous
trouvez ça bien aujourd'hui que l'État ait décidé d'imposer aux entreprises d'agir dans ce sens-là?
Je trouve que c'est bien. Je trouve par contre qu'il y a des institutions nationales qui ne jouent pas leur rôle.
Mmh. Ouais. Pour être plus clair, on ne va pas les citer.
Y a une institution qui collecte notre taxe et elle ne joue pas son rôle.
Ah. Bon, alors, le pétard est envoyé. On a allumé la mèche. Bon, on ne va pas la citer.
Elle ne peut pas répondre.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Il y a des choses à faire autour du handicap. Ce n'est pas entré dans la mentalité nationale, on va dire. C'est très, très peu.
Mais vous voulez dire quoi? Qu'ils ne touchent pas, compte tenu des sous qu'on leur donne, ne remplissent pas leur mission?
Je trouve quand même toujours un peu dérangeant que lorsque l'on veut faire une adaptation au poste de travail, que ça coûte beaucoup d'argent, ces adaptations, parce qu'il y a des sociétés qui vivent du handicap, que derrière, une institution qui doit aider les entreprises à recruter des handicapés ne nous aide pas financièrement, pas suffisamment pour équiper les postes de travail. Bon. Ça me dérange.
Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a quelque chose à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Mais c'est vrai que sur l'accompagnement des personnes en situation
Agnès
de handicap...
Ducressier.
Oui, excusez-moi, je repris parce que vous me regardez.
Allez-y.
Donc, effectivement, le montage, par exemple, le montage financier de cet accompagnement, il n'est pas trouvé encore.
Voilà.
Je vous remercie, je suis ravi de vous avoir donné la parole et vous soyez venu dans cette émission en ce début de samedi après-midi, car c'est un sujet qui nous touche tous, hein, le handicap. Bien sûr. Merci de votre présence. Vous avez un site, dernier mot?
Oui, bien sûr. Allez-y. Iris Messidor. Vous trouvez irismessidor.fr.
Iris comme la fleur.
Iris comme la fleur. Et Messidor comme la moisson révolutionnaire.
M-E-2-S-I-D-O-R.com ou .fr.
.fr.
Merci à vous.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Avec notre invité d'honneur, Gonzague Saint-Brie, écrivain, bien sûr, pour son livre Un ruban de rêve, tout petit livre, hein, chez Incipit. Il faut dire Incipit, hein.
tout
rappelez-moi
à fait.
Déjà la définition d'incipit.
Incipit, ce sont les premières phrases d'un livre.
Voilà. Si vous nous retrouvez, Incipit, c'est cet éditeur. Incipit, en fait, c'est, on a demandé à beaucoup de personnalités, comme vous, voilà, de la littérature ou de la culture avec un C majuscule,
de raconter la première fois d'un grand événement qui a, cette fois-ci, c'était le Festival de Cannes.
Pour vous.
Et voyez-vous, en fait, on s'aperçoit que le Festival de Cannes, c'est pas seulement une chose de people, de...
Attendez, vous dites ça, mais je monte. On est à la radio, c'est dommage, mais on vous voit en photo avec Sharon Stone et je vois que votre main est du côté de sa hanche.
Alors ça, c'était après une interview avec elle. Elle était passionnante du point de vue culturel, hein. Et à une interview à Eden Rock, et c'était le lendemain. Effectivement, elle était souriante.
Voilà. C'est un métier merveilleux, celui de journaliste. Mais je rappelle que vous, Gonzague Saint-Pli, vous êtes écrivain, historien et journaliste. Vous avez plusieurs étiquettes, homme de presse, de radio et de télévision. Et vous êtes l'auteur, je le rappelle, de 50 ouvrages, dont 20 biographies. Vous aviez tout à l'heure en début d'émission précisé cela, mais je le rappelle, vous avez raison. En 2002, vous avez reçu le prix Interallié pour votre roman Les Vieillards de Brighton chez Grasset. Et en 2016, le prix Hugues Capet pour l'ensemble de votre œuvre, dont le fameux Louis XI, le méconnu, metteur en scène, etc., etc. Bon, et
mais
producteur
surtout,
de clips, et président du Festival du film de Cabourg.
Il faut rendre hommage surtout. Et je voudrais que cette année, le Festival de Cannes rende hommage à son fondateur. Car franchement, Alexandre Lichamp, est-ce que vous saviez qui était le fondateur du Festival de
Monsieur
Cannes?
Est-ce
que vous aviez entendu parler de Philippe Erlanger?
Non. Si, alors, j'avais entendu parler, mais j'avais aussi surtout entendu parler de Jean Zay. Qui
alors,
est mort,
Jean Zay,
qui était le premier grand ministre de la culture.
Porté au Panthéon, c'est magnifique.
C'est fait. Oui.
Mais il faut cette année, pendant ce Festival de Cannes, j'en appelle à son président, Monsieur Lescure, qui est un ami, et il faut qu'il y ait une plaque qui soit posée pour Philippe Erlanger et un hommage à celui qui a créé ce festival.
Qui est à l'origine, vous avez raison.
Ce sont deux résistants pour l'image de la France qui ont créé le Festival de Cannes. L'un qui a été massacré par la milice, oui. Et l'autre qui a été persécuté aussi parce que sa mère était juive, qui est Philippe Erlanger. Un grand historien.
Alors, toujours en présence de Véronique Gillot de DRH d'Alcimaï. Alcimaï a un site. Enfin, on peut aller sur le site mediarh.com, bien sûr, pour retrouver la possibilité de poser candidature, retrouver les offres d'emploi. Mais vous avez un site vous-même, Alcimaï. E-L-C-I-M-A-I.
.com,
qui veut dire le sommet, vous l'avez dit en début d'émission, en Bernay. C'est en Bernay?
Non, on
l'imagine. Voilà, on l'imagine. Mais si c'était le cas, ce serait. Même si c'est pas le cas, c'est joli de dire que ça veut dire le sommet.
Alors, le Simaï est une falaise qui est.
C'est pas le mont Simaï.
Non. Qui est une falaise à côté de Toulon. Ah. Et c'est une falaise réputée pour ceux qui font de l'escalade. Parce que le créateur, le fondateur du groupe faisait de l'escalade.
Voilà, donc il a eu l'idée d'associer ce nom-là, l'escalade, pour aller monter au sommet. Pour aller au sommet de la gloire, bien sûr. Elsimaï. Elsimaï.com ou .fr,
j'imagine.
.com. Voilà, alors il y a un dernier invité que j'aimerais vous présenter. Et alors, il va vous intéresser, je pense, à ceux qui sont ingénieurs, qui recherchent un emploi, d'ingénieurs informatiques ou dans le digital. Et c'est assez étonnant, c'est vous, David Castera. Bonjour.
Il est Bernais.
Et il est Bernais.
Bonjour Alexandre.
C'est lui qui est Bernais.
Je suis Bernais, exactement.
Je me suis trompé, c'est vous qui êtes Bernais. Alors, vous êtes fondateur, vous, de Immersing Lab. C'est bien ça?
Immersive Lab.
Immersive, pardon. Oui. Lab, créé en 2003.
C'est ça.
Et vous vous présentez comme artisan du numérique, ça veut dire quoi?
Alors, ça
avant
veut
de
dire...
parler de votre innovation, de ce test de culture numérique des candidats.
Alors, artisan, ben, ça veut dire que on travaille comme des artisans. Quand un client vient nous voir et qu'il nous dit, ben voilà, je voudrais... être mieux présent sur Internet ou mieux utiliser les outils du numérique parce qu'on connaît des problématiques aujourd'hui. Ben nous, on travaille avec lui et on lui monte un projet sur mesure. Et à chaque fois, c'est un projet différent. Et une fois qu'on a terminé, il repart avec son projet, avec ses outils.
Clé en main.
Et nous,
voilà.
On passe à autre chose. Voilà,
alors, j'ai vu, en fait, cette démarche qui s'appelle, je le dis tout de suite, s'appelle le TANU. T-A-N-U. Le premier test d'agilité numérique, dont on va parler dans quelques instants, en fait, on comprend mieux, vous êtes des experts dans ce domaine du digital, et vous vous êtes vous-même posé la question, comment s'assurer que mes salariés, m'assurer que mes salariés ont la culture suffisante pour faire face à la transformation numérique de mon entreprise.
Alors,
c'était ça le point de départ.
C'est en partie ça, mais c'est aussi chez un client, en fait. On a, parmi nos clients et actionnaires, on a une grande banque française, pour ne pas la citer, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc chez nous, la caisse régionale de chez nous, oui. Et qui a, comme toutes les entreprises aujourd'hui, des problématiques de transformation numérique. C'est le terme un petit peu à la mode.
Bien sûr, en ce début de siècle, on est en plein dedans.
Ah, exactement. Et en fait, ce thème-là, c'est... Ben, comment on fait pour aujourd'hui s'adapter à l'impact du numérique sur l'économie, sur les métiers, sur la relation client, etc., etc.
Dans
le numérique touche tout, y compris les produits. Et dans la banque, même les produits bancaires sont touchés par le numérique.
Exact. Ouais.
Et on a constaté chez au Crédit Agricole et moi dans mes équipes aussi hein, que les salariés n'étaient pas forcément conscient de cette transformation et conscient de l'effort à faire pour
de leur part,
de leur part ouais, pour comprendre en fait le monde dans lequel ils vivaient. Mmh. Or, comprendre le monde dans lequel on vit, c'est une compétence qui nous paraît quand même assez importante dans le domaine professionnel.
Et c'est cas. Comme ça que vous avez eu l'idée d'inventer ce premier test d'agilité numérique. On connaissait le
TOEIC.
Le TOEIC pour l'anglais. Désormais, la culture numérique a son tanu. Alors, c'est un test que vous avez donc développé qui consiste en quoi? C'est des questions, un questionnaire?
Alors,
un QCM, comment?
Oui, c'est un QCM avec un tronc commun de 90 questions en 30 minutes.
Avec combien de réponses possibles à chaque
fois?
Trois réponses possibles.
Voilà, tout à fait.
Donc 90. À réaliser en 30 minutes?
En réaliser en 30 minutes, donc ça va quand même assez vite. Des questions qui sont puisées dans une base aujourd'hui d'un peu plus de 1000 questions dans le domaine du numérique et notamment dans 5 catégories. On a divisé le questionnaire en 5 catégories.
Alors, il y a quoi?
L'informatique, d'accord. Évidemment. Internet, évidemment. Les réseaux sociaux.
Ça fait 3.
Ça fait 3. La technologie, on va dire, c'est tout le numérique hors de l'écran.
Ouais.
Et presque ce qui, pour nous, est l'essentiel, l'économie numérique. En gros, à quoi servent les 4 catégories?
Donc, et vous dites que ce test que vous avez mis au point, cet outil, il peut être donc utilisé par les services des ressources humaines comme...
Il a été créé pour les équipes
pour
RH.
Pour les équipes RH, comme Véronique Gilot, peu demain, ça coûte combien?
Alors,
on ne va pas parler d'argent entre nous.
Si, vous allez voir, ça ne coûte pas très cher.
Allez-y.
Ça commence à 10 euros. Et ça termine à 5 euros en tarif public. On achète des packs, en fait, des crédits.
D'accord.
Un crédit égale un test. Donc, si vous achetez, mettons, 20 crédits, par exemple, ça va vous coûter 200 euros.
Voilà. D'accord, je comprends. Bon, c'est pas trop excessif,
non,
ça
non,
va.
Non, c'est pas excessif. L'objectif, c'est juste.
Vous ferez un prix aux auditeurs de BFM Business?
Bien sûr.
S'ils se réfèrent au Club Média RH.
Tout à fait.
Vous leur ferez une petite réduction.
Avec plaisir.
T'intéresse qui, ce test? Quel type d'entreprise? Toutes, finalement, si je comprends bien.
Toutes les entreprises. Vous voyez, on a lancé le produit le 18 novembre 2015. Donc, ça fait 4 mois. Hein. C'est tout récent.
Oui.
Et on a ouvert des comptes pour des grands groupes, pour des PME, des TPE. On a eu récemment un expert comptable qui a ouvert un compte parce que lui avait besoin de cet outil pour ses entretiens annuels.
Alors j'ai noté David Castera, je rappelle que vous êtes le fondateur de Immersing, je l'ai bien dit cette fois ?
Immersive,
décidément j'y arrive pas. Immersive Lab, j'ai noté, et je trouvais ça intelligent, c'est qu'en fait votre test là, il est au deuxième degré, dites-vous, l'occasion de détecter au sein de ses propres équipes, finalement les salariés dont les profils sont les plus agiles, comme vous dites. C'est joli, une jolie formule. C'est vrai que ça permet donc en plus de trouver du... C'est une bonne idée, non?
Oui,
vous
c'est une bonne idée, oui.
Vous aussi, vous êtes d'accord? Je me tourne vers tous les autres invités de l'émission.
Ah oui, je
Agnès
suis
Ducrécien.
Je suis employeur, donc je trouve que c'est une bonne idée.
Oui. Ouais. Et vous, Gonzague?
Très bonne idée. Hein,
c'est intéressant de se dire que l'on peut tester et en même temps découvrir quels sont, qu'on a peut-être des talents chez soi sans le savoir. On peut le faire à la maison aussi, le QCM?
Alors, ça, ce sont les entreprises qui vont choisir dans quelles conditions le candidat ou le salarié va passer le TANU. On peut le faire à la maison, on peut le faire lors d'un entretien de recrutement, en face à face. On peut le faire dans un centre de test, dans un centre de formation, par exemple. C'est l'entreprise qui choisit.
Alors, vous avez, pour terminer, un site internet, on peut le citer, allez-y.
Alors, le site, c'est TANU.io.
TANU, T-A-N-U.
Hein. TANU.io. Voilà, tout simplement.
Ça veut dire quoi, .io?
IO, c'est une extension input-output, une référence à l'électronique.
Je ne connaissais pas. Moi, je connaissais .com, .fr.
Alors, on a pris le .io parce que...
IO.
Oui, le .io, parce qu'il nous fallait absolument un nom de domaine très rapidement. Et le .fr n'était pas accessible.
Ah bah voilà.
Tout du moins parce que Tanu, c'est aussi une agence gouvernementale, je sais pas trop ce qu'elle fait, donc il fallait qu'on monte pâte blanche pour avoir le .fr. Voilà.
On était ravis de donner un coup de projecteur sur votre concept d'outil. Je voulais vous remercier tous, bien sûr, Véronique Gilode, DRH d'Alcimaï, bonne chance. J'espère qu'on vous a aidé à, on va vous aider à trouver les bonnes compétences que vous recherchez. Donc, il faut aller sur mediarage.com pour entrer en contact avec vous ou sur le site d'Alcimaï, elcimai.com. .fr. Remercie également .com. You are welcome. Merci Agnès Ducressier et merci Gonzague Saint-Brie.
On se retrouve à Cannes avec BFM.
Avec plaisir mon cher Gonzague. Et puis j'oublie pas qu'au mois de juin vous serez le président de votre festival à vous.
Festival du film romantique de Cannes.
Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir été à notre écoute. Restez à l'écoute de BFM Business, la plus belle des radios. Bon week-end.